et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Alors, vous patientez deux secondes, je baisse un tout petit peu le niveau de mon micro parce que je suis en train de me casser les oreilles. Ce sont les aléas du direct en confinement. Alors, malgré le confinement, vous l'avez compris, depuis 15 jours, nous nous mobilisons au cœur de cette crise sanitaire sans précédent. Notre mission à nous, c'est de continuer à vous informer, de répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez. Et pour ce faire, il est tous les jours à mes côtés, mais de chez lui, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, moi mon micro est bien réglé, gouverner c'est prévoir et moi j'ai prévu qu'il fallait que j'adapte mon micro à l'émission, donc tout va bien.
C'est mon casque qui était mal réglé, non, tout le reste fonctionne j'ai l'impression. Allez, au programme aujourd'hui, comme tous les jours, nous aurons plusieurs experts en ligne. D'abord le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, grand connaisseur du monde hospitalier. Il nous donnera sa vision de cette épidémie et de ses conséquences sur notre système de santé. Il commentera aussi la division qui anime le monde scientifique en ce moment depuis quelques jours autour de l'utilisation de la chloroquine. Faut-il ou pas changer les règles du jeu, les bonnes pratiques médicales quand il y a urgence. Il nous donnera son point de vue. Après ça, nous accueillerons Charlotte Marr, fondatrice de l'application Bull by May Charlotte, une application gratuite lancée le 24 mars dernier pour accompagner les personnes atteintes de cancer pendant le confinement. C'est une super initiative réalisée avec des oncologues, notamment des activités physiques et mentales adaptées pour ces patients. Vous verrez, c'est à la fois utile et très sympa. Ensuite, autre conséquence de cette épidémie, les cabinets des généralistes sont désertés par les patients habituels. Nous recevons le docteur Jean-Louis Bensoussan du syndicat MG France. Il insiste, les généralistes continuent de vous recevoir si vous en avez besoin. Les malades chroniques, les diabétiques, les hypertendus par exemple, ne doivent pas disparaître dans la nature, c'est très important. Enfin, pour terminer, une petite touche de douceur et d'amour à la fin de cette émission, car confinement ne veut pas dire isolement. Vous continuez à nous envoyer des questions sur vos relations amoureuses, sur vos problèmes de couple notamment. Et bien Catherine Blanc, notre psychanalyste et sexologue, sera avec nous pour en parler.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Gilbert Deray, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir à nouveau sur ce plateau, alors un peu à distance, mais on est quand même content de vous entendre. J'appelle que vous êtes chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors justement, est-ce que d'abord avec cette crise sanitaire, votre service a été, réorganisé? Est-ce que vous prenez en charge des patients Covid ou pas du tout? Vous continuez juste, c'est déjà beaucoup de travail d'assurer la prise en charge des pathologies classiques que vous avez l'habitude de traiter?
Alors tout l'hôpital a été réorganisé. Et premièrement, tous les services dont l'activité n'était pas essentielle ont nettement diminué leur activité de consultation et d'hospitalisation. Dans un service comme le mien, nous avons suspendu les transplantations rénales hors urgence, double greffe par exemple, et nous avons fermé ou plutôt atténué le nombre de consultations en nombre de maintenant par téléphone. Par contre, on a un secteur qui est touché, c'est la dialyse. Où nous avons, plusieurs patients et à Paris, c'est très tendu sur ce problème qui sont Covid-19. Et pourquoi c'est un problème? Parce que, d'abord, ce sont des patients très fragiles et qui donc risquent d'avoir des complications sévères. Et parce qu'un patient dialysé Covid-19 nécessite beaucoup plus de personnel.
Bien sûr. Et des patients Covid en même temps, donc il peut vous arriver aussi dans des patients qui viennent pour des pathologies rénales, justement, qui peuvent arriver. Il suffit d'un patient, dialysé, qui vient, qui tousse un peu, qui a de la fièvre, il peut être suspect. Quelles précautions particulières vous prenez dans ces conditions, dans votre service, qui n'est pas un service d'infectio normalement dédié à ça habituellement, hein?
Alors, pour les patients qui sont Covid-19 non dialysés, on les dirige vers les unités de l'hôpital qui ont été construites pour ça, de façon à ne pas les mettre proches des patients Covid-19 négatifs. Donc l'hospitalisation, on essaie de la garder négative. Par contre, pour les patients dialysés, c'est beaucoup plus compliqué. On a créé une unité à part qui n'accueille que les patients Covid-19 avec un personnel qui est dédié pour que les autres patients ne soient pas contaminés. Dès qu'un patient a des symptômes qui nous feraient évoquer le Covid-19, il est évidemment immédiatement testé et isolé.
D'accord. Et vous, alors, attendez, essayez peut-être juste, parce qu'on a des petits problèmes de liaison, par moment, on vous entend pas très bien, de vous mettre à un endroit qui capte mieux, peut-être, je ne sais pas. Ce que je voulais vous demander, si, donc j'ai bien compris que vous avez un circuit bien précis.
Est-ce que là, c'est mieux?
Oui, j'ai l'impression. Le niveau équipement de protection, vous, les soignants dans votre service de néphrologie, est-ce que vous êtes suffisamment équipés?
Alors, en milieu hospitalier maintenant, oui, on est équipés. On a des masques, on a des gants, évidemment, du gel hydroalcoolique. Le milieu hospitalier a été fourni en priorité. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème.
Jimmy Mohamed?
Professeur, puisqu'on sait que les néphrologues sont des internistes quasiment, en fait, c'est-à-dire que vous gérez toutes les pathologies et donc vous êtes évidemment formé à traiter le Covid ou n'importe quelle autre infection, mais est-ce que c'est le cas, par exemple, des cardiologues, des oncologues, des gastro-entérologues qui n'ont peut-être pas l'habitude de prendre en charge des patients Covid plus? Est-ce que vous échangez entre vous? Est-ce que certains vous demandent peut-être de l'aide? Est-ce qu'il y a des petites formations? Je ne sais pas, où vous arrivez tous à prendre en charge de façon optimale tous les malades?
Alors je pense que oui, parce qu'en fait il y a une coordination globale dans l'hôpital, que des cellules d'information et de crise ont été créées et que tout collègue qui le souhaite peut appeler pour avoir au téléphone un spécialiste ou rediriger un patient. Donc il n'y a aucune carence d'information et tous les patients de ce fait en fait sont pris en charge correctement.
Et vous craignez pas aussi qu'il y ait, certains commencent à en parler, des dégâts collatéraux? C'est-à-dire que bien sûr on voit ce qui se passe avec le Covid, l'épidémie c'est catastrophique, mais il y a toujours ces malades qui existent, qui étaient déjà là avant. Est-ce que, je ne sais pas, ceux qui vont faire un infarctus ou qui ont, je ne sais pas, de l'hypertension, du diabète, il n'y a pas un risque que ces gens-là, dès qu'on pense leur maladie, ne puissent pas être sauvés car la prise en charge habituelle est plus optimale, tout à fait?
Ouais, il faut qu'on fasse très très attention parce qu'effectivement, à force de porter l'attention sur le Covid-19, on a fini par oublier les autres patients. Les risques, ils sont multiples. Hein. D'abord, ils sont au niveau du patient lui-même. Donc, on va lancer un message. Hein. Si vous n'êtes pas bien, vous contactez le 15. Si vous avez une douleur dans la poitrine, par exemple, ça peut être un infarctus. C'est pas parce que vous n'avez pas les symptômes du Covid-19 qu'il faut négliger votre symptôme. La deuxième chose, c'est que tous ces patients qui ont une pathologie chronique, qui sont pris en charge, ne restez pas chez vous, gardez les contacts avec vos médecins, n'hésitez pas à les contacter si vous avez un problème. Et puis, il va y avoir tout ce qu'on a différé, les interventions chirurgicales et même radiothérapie, chimiothérapie. Et ça, il va falloir quand même que le plus rapidement possible ce soit rétabli.
Parce qu'il y aura une autre vague derrière, hein, c'est ça, quand le confinement sera levé, il y aura tout ce qui a été reporté qu'il va falloir remettre à l'ordre du jour.
C'est très clair. Et d'ailleurs, c'est un point majeur et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas qu'on ait une nouvelle vague de Covid-19. Notre système sanitaire, à l'heure actuelle, il tient bon, pour plein de raisons, y compris, je voudrais souligner la solidarité. Mais si au déconfinement, on fait une deuxième vague, et même si elle est moins importante, attention, le système sanitaire, il ne pourra pas tenir. C'est pour ça que la sortie du confinement va être absolument vitale.
Jimmy ?
Et justement, vous parliez des soignants. L'Italie compte 63 médecins qui sont décédés du Covid-19. En France, on a aussi malheureusement des morts. Alors évidemment dans la population et aussi dans le personnel soignant. Est-ce que vous craignez un petit peu pour les équipes médicales? On sait qu'il y a de plus en plus de malades, que ce soit les infirmières, les aides-soignants, les paramédicaux, même les manipulateurs radio. C'est-à-dire qu'on parle des radiologues, mais vous avez aussi les personnes qui sont en contact des malades, qui tombent malades. Est-ce que vous pensez que les équipes vont tenir le coup?
Alors c'est un problème absolument essentiel parce qu'en fait, on est maintenant dans les hôpitaux moins dans un problème de matériel, et je dis bien les hôpitaux parce que la carence a des soucis ailleurs, que dans un problème de personnel. D'abord, on n'avait déjà pas le personnel. 20 ans de restrictions pour les hôpitaux, ça nous a conduit dans une situation de tension importante avant le Covid-19. Vous imaginez quand le Covid-19 est arrivé. Alors pour l'instant, on gère pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui travaillent, et vous avez bien fait de souligner, brancardiers, infirmières, manipulateurs, sont extrêmement courageux. Mais, un, ils vont s'épuiser, évidemment, au cours du temps. Et deuxièmement, oui, on a des patients, des membres du personnel qui sont atteints. Et ça peut être relativement important. En particulier, d'ailleurs, parce qu'au début, on a manqué quand même de matériel. Hein, donc, ça n'a pas arrangé le problème. Et au fur et à mesure que ce personnel va devoir, évidemment, se reposer, être soigné, être confiné, on risque d'en manquer. C'est pourquoi l'ampleur de la vague est importante et c'est pourquoi il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Et il ne faut surtout pas qu'elle revienne.
Professeur Deray, merci. On n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient avec évidemment une émission entièrement consacrée aux questions que vous vous posez sur le coronavirus. Le professeur et néphrologue Gilbert Deray reste avec nous juste après pour répondre à vos questions et pour nous parler aussi de ce débat dans le monde médical et scientifique autour de la chloroquine et des travaux du professeur Raoult s'attirent de tous les côtés. Qui croire? À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission toujours aujourd'hui évidemment consacrée à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous interroger, hein, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors, il est toujours en ligne avec nous, le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Professeur Deray, on va passer à ce débat quand même autour de l'usage de la chloroquine. Je sais que vous avez appelé à être très vigilant sur l'usage de ce traitement, surtout sans avis médical, ça vous inquiète, hein ? Il y a déjà eu des cas d'ailleurs assez inquiétants. Hein ?
Alors, il y a deux choses que je voudrais. D'abord, il faut qu'on sorte absolument du débat conflictuel et qu'on essaye d'avancer sereinement en attendant les études, d'autres études qui vont arriver là très rapidement. Deuxièmement, on a eu malheureusement quelques cas sévères de problèmes cardiologiques, mais parce que ce sont des prises de médicaments sans ordonnance.
En automédication, c'est ça ?
Automédication, que donc ce qu'il faut dire à ceux qui nous entourent, c'est que ça vaut pour l'hydrochloroquine, mais ça vaut pour tous les autres médicaments. Ne vous automédiquez pas, demandez conseil à votre médecin, ne prenez ces médicaments que sous ordonnance, et surtout, le médecin saura ce qu'il faut faire pour surveiller le traitement, et ainsi, on n'aura pas de problème.
Bien sûr. Quels sont les risques précis, d'ailleurs, avec ce traitement, l'hydroxychloroquine, alors qu'il soit utilisé seul ou en association avec un antibiotique? On a entendu parler, vous venez de le dire, de la toxicité cardiaque, mais je crois que ce n'est pas tout, il y a d'autres risques d'effets secondaires, hein.
Il y en a d'autres, mais ils sont quand même. Quand on prend l'hydroxychloroquine seule et qu'elle est bien maniée, les effets secondaires sont très peu fréquents. On peut avoir une aggravation, par exemple, d'un psoriasis quand on a un psoriasis. On peut avoir des petites douleurs musculaires. Le principal effet secondaire qui est craint, il est cardiologique, mais là encore, il est peu fréquent si on l'utilise bien. L'azithromycine, qui est l'antibiotique qui est donné avec. Comme elle donne aussi le même type de problème cardiologique, l'association des deux doit être un peu plus surveillée. Et là encore, si vous le prenez sous surveillance médicale, c'est-à-dire avec un électrocardiogramme, vous ne devriez pas avoir de problème.
Jimmy, pardon ?
Oui, parce que vous avez raison, là on parle beaucoup d'automédication et pas plus tard que ce matin, j'ai vu une patiente qui prend de la nivaquine, donc un dérivé du plaquenil, de la chloroquine, puisque elle a une maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la vache folle, et donc elle a ce traitement, une petite dose qu'elle prend tous les jours. Elle a vu que le professeur Raoult suggérait qu'il fallait 600 mg, et comme elle avait un petit peu de fièvre, elle a décidé d'en prendre 6 fois plus que d'habitude, avec les toxicités cardiaques qu'on connaît. Et est-ce que vous pensez, tel que c'est proposé pour l'instant, alors on nous dit que le traitement n'est pas risqué, puisqu'on en prescrit depuis très longtemps à des millions de personnes dans le monde, mais quand même que les gens qui vont en prendre vont avoir un électrocardiogramme avant la mise du traitement et puis pendant. Est-ce que vous pensez qu'à plus grande échelle, on pourra sereinement distribuer de la chloroquine si le traitement se révèle efficace? Parce que l'idée, c'est de dépister massivement et donner quasiment à tout le monde des gens de la chloroquine. Est-ce que c'est réaliste de penser ça?
C'est l'un des sujets. Si demain, on se mettait à donner l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. On rappellera que les deux ensemble posent plus de problèmes. Clairement, il faut une surveillance électrocardiographique. C'est d'ailleurs la recommandation qu'a fait l'Association des centres de pharmacovigilance en France. Et donc, en théorie, on est censé faire un ECG avant, un autre à 3-4 heures après s'il y a une anomalie sur le premier, puis deux fois par semaine. Si on fait ça à très très grande échelle, c'est-à-dire sur des millions de personnes, en l'état, ça n'est pas possible. Ou alors, il va falloir mobiliser tous les médecins généralistes,
bien sûr,
et tous les cardiologues du pays là-dessus. C'est pas simple.
Et docteur, excusez-moi, mais on a l'impression, donc vous le disiez, hein, qu'il faut sortir de cette guerre qui est d'ailleurs plus maintenant presque médiatique que scientifique. Oui. Au final, il y a quand même des résultats scientifiques qui ont été publiés par le professeur Raoult. Mais selon vous, c'est pas convaincant ce qu'on a eu? D'ailleurs, c'est pas des publications scientifiques au sens strict, hein, c'est des mises en ligne, en fait, c'est ça?
Moi, comme vous le savez, je me suis déjà prononcé là-dessus. Le débat, il est autour du fait de savoir si il faut respecter les standards habituels des publications et de la science ou non, parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Moi, ma position est de dire qu'il nous faut attendre les résultats des études qui vont arriver, et on va avoir des premiers résultats, si tout va bien, à l'issue de semaine, hein, cette étude européenne Discovery. Il y a un très grand essai qui vient d'être lancé en France, sous l'égide du CHU d'Angers, sur quand même 1300 personnes, et qui vise à préciser, là encore, les effets de l'hydroxychloroquine chez des personnes de plus de 75 ans, donc plutôt à risque de faire des complications graves, mais à un stade où elles ne sont pas graves. Nous avons ces résultats assez vite, très vite même. Et par rapport aux standards habituels de la science, c'est-à-dire pour ce qui est de la rapidité, habituellement, il nous faut 2 ans pour avoir des résultats.
Oui, bien sûr, donc ça va déjà très vite. Mais...
Donc, je trouve que le process qui est en cours, le processus qui est en cours est extrêmement rapide. Et ma position est de dire qu'effectivement, il est plus sage d'attendre ces résultats.
Jimmy ?
Pour l'instant, l'équipe du professeur Raoult montre qu'on peut diminuer la charge virale des malades, mais est-ce que cela suffit à conclure à l'absence de complications, à l'absence finalement de mortalité ? Est-ce que baisser la charge virale est suffisant pour que les gens aillent mieux ? Est-ce que l'enjeu est là ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres mécanismes dont on est en train de découvrir ?
Il y a plusieurs éléments dans votre question. Premièrement, si on est capable de faire baisser la charge virale d'un patient, c'est très bien, évidemment. Il n'y a pas de médicament antiviral qui ne sera efficace s'il ne fait pas baisser la charge virale, ça c'est sûr. Deuxièmement, il y a une corrélation entre l'intensité de la charge virale à un moment de la maladie et la gravité de la situation. Donc, bien sûr qu'il faut faire baisser la charge virale. Ensuite, quand on étudie ce genre de médicaments, on veut aussi des index cliniques. Il est plus que probable que si on fait vraiment baisser la charge virale, il y aura une amélioration clinique. C'est plus que probable. Et que si on ne fait pas baisser, il est peu probable qu'il y ait une amélioration clinique. Mais je voudrais voir les deux. Et en particulier d'ailleurs chez les patients les plus graves, parce qu'à un moment, dans la maladie virale, se produit un très très gros phénomène inflammatoire. Et ce phénomène inflammatoire va finir par être plus grave que le virus lui-même.
Donc très très, très tard, c'est peut-être un peu trop tard. Merci beaucoup, professeur de Réau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci encore.
Europe 1.
Votre émission Sans Rendez-vous revient avec un coup de projecteur sur une nouvelle application pour accompagner les personnes atteintes d'un cancer en cette période de confinement. Ça s'appelle Bulle by My Charlotte. On va vous expliquer de quoi il s'agit précisément juste après. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans Rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille tout de suite par téléphone Charlotte Marre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la fondatrice de l'application Bulle by My Charlotte. D'abord, peut-être un mot rapide sur la start-up qui est à l'origine de la nouvelle application Bulle, qui vient d'être lancée dans ce contexte de crise. La start-up My Charlotte, elle est déjà habituée à cet accompagnement, hein, je dirais, de patients atteints d'un cancer.
Oui, absolument. On a créé My Charlotte l'année dernière. Suite à mon expérience en tant que patiente, puisque j'ai été moi-même touchée 2 fois par un cancer du sein. Et c'est en partant de notre propre expérience qu'on a créé une application gratuite qui s'appelle My Charlotte et qui s'adresse aux personnes qui sont touchées d'un cancer du sein.
D'accord. Donc avec déjà, il y a déjà 2000 patients qui suivent cette application, hein, je crois.
Exactement. Donc on a, avec des médecins et des thérapeutes, on a enregistré 130 exercices simples et efficaces pour agir sur les effets qui sont liés au traitement contre le cancer du sein. D'accord. Donc c'est tout simplement des enregistrements audio et vidéo, donc des exercices où vous êtes guidé, des exercices physiques pour aider à se bouger, pour agir contre par exemple la fatigue liée au traitement, ou des exercices pour agir sur l'angoisse, la peur, l'insomnie, enfin tous ces effets secondaires qu'on connaît bien quand on est traité pour un cancer et sur lesquels on peut agir donc avec des exercices, par exemple de respiration, de relaxation ou de méditation.
D'accord. Et donc là, dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement, surtout, vous êtes dit que ces malades qui se battent déjà au quotidien, puisque vous savez très bien, vous êtes passé par là, ce confinement obligatoire, c'est un peu la double peine pour ces personnes atteintes du cancer. Donc vous avez lancé l'application Bulle. Expliquez-nous ce que c'est.
Alors effectivement, normalement, les patients qui sont traités pour un cancer ont en général la possibilité de pouvoir bénéficier d'activités, justement, qu'on appelle des soins de support, à l'hôpital ou dans des associations. Et dans le cadre du confinement lié au Covid-19, toutes ces activités sont suspendues. Donc, on a décidé de créer Bulle, qui regroupe des activités qu'on a tirées de My Charlotte et qui vont bénéficier donc à toutes les personnes qui ont un cancer, de façon à ce qu'elles puissent, chez elles, agir sur les problèmes spécifiques qui sont liés au confinement, puisqu'il y a des risques donc augmentés de sédentarité, de pression psychologique accrue. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de mettre à disposition des exercices qu'on peut faire chez soi, de façon à pouvoir agir sur ces risques-là.
Docteur Jimmy Mohamed ?
Oui, je pense que c'est nécessaire, hein, votre initiative et l'application, puisque c'est la double peine. Lorsqu'on a un cancer et qu'on est confiné, ça peut être compliqué, puisqu'il y a la sédentarité, puis derrière, il va y avoir un peu de déconditionnement physique. Et donc forcément, bah, y a, finalement, comme il n'y a plus d'hôpitaux, bah, tout s'arrête. Et on est d'accord que les séances de sport que vous proposez, l'activité physique en ligne, c'est finalement assez doux. Là, ce n'est pas une histoire de préparation, un entraînement important pour faire un marathon ou les Jeux Olympiques.
Exactement. C'est effectivement, ce sont des exercices de mobilisation qui sont doux, de façon à pouvoir justement bénéficier vraiment au plus grand nombre sans difficulté. L'objectif, c'est d'avoir un exercice physique. Donc, il faut qu'il y ait contraction musculaire pour pouvoir agir contre le déconditionnement physique. Donc, c'est le risque de fonte musculaire. Et donc des exercices qui sont accessibles. Donc là aussi, les exercices de méditation, de relaxation, on peut appréhender en disant je ne connais pas ce type d'exercice. Là, vous êtes guidé du début jusqu'à la fin et c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a aucune connaissance préalable.
Donc des vidéos. Oui, des vidéos, voilà, et des podcasts pour donc d'activités physiques et à la fois pour vous avez pensé à l'aspect psychique, hein, de la chose, puisque vous dites aussi du yoga, enfin des choses, de la méditation pour vraiment mettre le mental un petit peu au repos, s'apaiser, etc. Je crois que cette application, vous l'avez montée en 5 jours, c'est vraiment un record, mais malgré tout, il faut quand même que les gens le sachent, vous avez pris soin de créer des programmes qui sont vraiment validés par le monde médical, hein, c'est ça?
Tout à fait. On s'appuie sur deux domaines dont l'efficacité a vraiment été scientifiquement prouvée. Donc l'activité physique et ce qu'on appelle les activités corps-esprit, donc des activités du type relaxation, méditation, qui sont largement utilisées dans le monde médical pour alléger justement ces problématiques liées à une pression psychologique importante. On a travaillé avec le docteur Florian Scotté, qui est oncologue médical à Gustave Roussy, qui donne d'ailleurs sur le site Bulle des recommandations spécifiques des risques liés au confinement dans le cadre du Covid-19. Et on a réussi à vraiment mobiliser en très peu de jours beaucoup d'acteurs, donc des médecins, des infirmières, différents hôpitaux et des associations de patients qui connaissent l'importance de faire ces activités parce qu'ils savent que ces activités ont un impact réel sur la vie des patients. Donc l'objectif, c'est vraiment de diffuser l'information de l'existence du site Bulle de Ma Charlotte. On est soutenu donc par des centres comme Gustave Roussy, mais aussi l'Institut du cancer à Montpellier, par exemple. Des associations de patients comme Passage en Vercors, mon réseau cancer du sein, du poumon et gynéco.
Beaucoup de soutien, effectivement.
Oui, c'est vraiment de faire connaître. Donc, si je peux me permettre, c'est vraiment un appel qu'on lance pour faire connaître auprès des personnes qui sont en traitement et qui sont touchées par un cancer, faire connaître l'existence de Bulle, parce que c'est important de faire ces activités. Ouais. Au-delà du simple bien-être que ça procure, il faut se méfier de ces risques qui sont liés au confinement.
Eh bien, je crois que le message est passé. Merci beaucoup, Charlotte Marre, d'avoir été avec nous pour faire part donc de cette belle initiative. Donc, l'application Bulle, ça s'écrit comme une bulle. Et c'est gratuit, bien sûr, pour les patients atteints d'un cancer, à qui on envoie, bien sûr, plein d'ondes positives. Au passage, bravo encore et merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec une émission toujours consacrée aux questions que vous vous posez sur le coronavirus et autres conséquences de cette épidémie. Les cabinets des généralistes sont vides, ils se demandent où sont passés leurs patients habituels et craignent des retards de soins. On va faire le point avec le docteur Jean-Louis Bensoussan du syndicat MG France. Restez sur Europe 1. Rendez-vous revient dans un instant avec les réponses aux questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. Mais avant ça, on va se détendre avec un peu de musique. Je vous propose d'écouter un morceau positif qui fait du bien. C'est le chanteur Tibez, ça s'appelle « Tout au bout du monde ».
Je t'ai connu avant l'enfer, je t'ai connu, t'étais le roi. Bien avant les cernes et la noirceur, des enfants de la nuit qui font n'importe quoi. Souviens-toi quand tu faisais rire les filles. Souviens-toi comment t'étais beau et fier. Avant que ça vide une aiguille. Vois ce qu'elle a fait à mon frère. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne. Si t'as besoin de moi, tu peux mentir au monde entier.
mais face à moi, t'es pas de taille. Je n'ai pas peur de tes secrets, de tes blessures, de tes entailles. Regarde-nous sur la photo, quand on trinquait à l'amitié, aux quatre cages de rien de faux. Viens qu'on retourne dans le passé, tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Et sur ta peau abîmée, j'effacerai tes blessures, c'est ma bataille. Et je marcherai à tes côtés, où que tu sois, où que tu ailles. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi.
Ça fait du bien de la musique sur Europe 1. C'était le chanteur Tibèze, ça s'appelle Tout au bout du monde.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. Depuis 2 semaines, hein, vous l'avez compris, notre émission s'adapte évidemment. Nous restons mobilisés pour vous informer, mais depuis chez nous, et j'espère que vous êtes chez vous, vous aussi. Alors à présent, on accueille par téléphone le docteur Jean-Louis Bensoussan. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes généraliste, vous êtes aussi le secrétaire général du syndicat MG France. Avant de parler de la situation dans les cabinets un peu désertés par les patients, et c'est un gros problème, hein, on va en parler juste après, peut-être un mot sur votre profession. Hein. Vous avez la sensation, je crois, avec les infirmières et certains pharmaciens, d'être un peu les professionnels oubliés, négligés par les autorités. Expliquez-nous.
Ben, en tout cas, négligés et oubliés pour ce qui est du matériel de protection. Les prises de parole des différents intervenants nous mettent en première ligne et nous disent qu'on est très important. Bon, ce sont des mots et tant mieux. Et c'est vrai qu'on est extrêmement sollicité par nos patients par téléphone pour plein de choses. Mais en termes de matériel de protection, moi, par exemple, j'attends toujours mes masques FFP2. Je n'ai eu que des masques chirurgicaux et je me sers encore de mes FFP2, comme je les appelle, de Madame Bachelot, c'est-à-dire de la grippe H1N1.
Vous n'en avez pas reçu un seul depuis le début de la crise ?
Non, je n'ai pas eu un seul FFP2. J'ai heureusement gardé mon carton de l'époque
H1N1. De masque périmé, quoi. D'accord.
Voilà, qui se finissent là dans quelques jours.
Effectivement, on sent pourquoi vous vous sentez oublié. Alors, pourtant, c'est vrai, vous êtes en première ligne depuis le début. Je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de généralistes qui ont déjà été contaminés. C'est vraiment parce qu'on ne vous a pas donné des moyens suffisants, vous pensez vraiment ?
Bah écoutez, je pense qu'on tirera les leçons et les conclusions de tout ça une fois cet épisode passé, mais ça me paraît être la cause principale. Je crois que, en tout cas au tout début, quand on ne savait pas trop les uns les autres que même des personnes asymptomatiques ou post-symptomatiques pouvaient être extrêmement contagieuses, beaucoup de mes confrères n'ont pas pu se protéger ou n'ont pas su se protéger suffisamment. Et donc, on compte beaucoup de médecins généralistes qui sont aujourd'hui sur le carreau, oui.
Alors un autre médecin généraliste qui est avec nous tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, niveau matériel et d'équipement, mais allez-y.
Écoutez, c'est vrai que les masques FFP2, c'est un peu la débrouille. On en récupère à droite, à gauche. Parfois, on a des patients qui nous en donnent, comme si on faisait un peu la charité, le mot, même si c'est touchant.
C'est ça qui est fou. Mais
il y a des initiatives, certaines entreprises qui font des dons. Donc, pour l'instant, nous, on vit de ça. C'est un peu triste, mais c'est vrai qu'on parle des masques, mais il n'y a pas que ça, puisque j'ai bon nombre. Et puis vous avez dû le constater, des médecins qui sont protégés avec des masques et qui tombent malades malgré tout. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. On manque peut-être de tabliers, de surchaussures. Les masques, c'est finalement qu'une entrée simplement dans la maladie.
De
à mon avis, il faudrait
aussi,
d'autres choses.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut effectivement avoir la protection complète normalement pour affronter des patients qui sont susceptibles d'avoir le virus et on est loin d'avoir tout ça, oui. Mmh.
Docteur Bensoussan, ce que vous n'avez pas apprécié non plus, je crois, c'est ce qu'a dit le Premier ministre à un moment donné. Vous dites qu'il a contribué à mettre le doute dans l'esprit des patients, à savoir, on ne sait plus, les patients ne savaient plus s'ils avaient toujours l'autorisation d'aller voir leur médecin.
Ben oui, on était dans une période où il y a eu des contradictions au jour le jour, parfois même plusieurs fois dans la journée. Donc les patients ne comprenaient plus s'il fallait venir, s'il fallait pas venir, si on était là pour effectivement les prendre en charge ou pas. Donc bon, les choses ont été corrigées assez rapidement. Les patients ont enfin compris que même s'ils ont des signes, effectivement, ils ne doivent pas se déplacer. Mais on peut les renseigner, on peut faire des téléconsultations. Moi, je me suis mis à faire énormément de téléconsultations. J'en suis à 10 ou 12 aujourd'hui, avec des patients qui sont post-symptomatiques et qui ont besoin d'être conseillés, de savoir quoi faire, de savoir quand appeler le 15. Qu'est-ce que ça veut dire une aggravation des signes? Un patient ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Clairement, des signes respiratoires, nous on est là pour leur répondre et on utilise. Enfin moi j'utilise et beaucoup des confrères. J'ai vu les chiffres, le nombre de téléconsultations a explosé. Donc beaucoup de confrères se sont mis à faire ça et tant mieux.
Ça, c'est pour les patients qui suspectent Covid, on va dire, mais il y a aussi tous ceux qui ont d'autres gros ou petits bobos. Selon vous, dans les cabinets, vraiment, vous avez senti ça? Enfin, nous, on a vu beaucoup, là, ces derniers temps, les généralistes qui témoignent et qui disent « Regardez, ma salle d'attente, elle est vide, c'est ça ? Ils ont déserté les cabinets, vous n'avez plus personne ?»
Non, non, c'est effectivement tous nos patients que nous voyons régulièrement poursuivis de leur pathologie chronique. Bien, écoutez, on ne les voit plus. Et puis les choses un peu plus simples pour lesquelles les patients consultent, bon, ben on ne les voit pas non plus. Est-ce qu'ils vont à la pharmacie? Est-ce qu'ils attendent les petites entorses, les choses comme ça? Tout ça, effectivement, ça ne fait plus partie de notre activité. J'ai un confrère, ils sont 5 dans une maison de santé. D'habitude, ils tournent entre 120 et 150 personnes par jour. Et là, ils en voient 15, quoi. Mmh. Voilà, c'est de cet ordre-là. Hein.
Moi, je pense que les patients ont vraiment peur désormais de tomber malade. Même lorsqu'il faut aller aux urgences, désormais, ils y réfléchissent à deux fois. Mais est-ce qu'on peut le rassurer dans le fait que vous avez réorganisé la gestion du cabinet? Vous allez peut-être faire, je ne sais pas, le matin des patients non-Covid, le suivi des pathologies, l'après-midi de la téléconsulte, et puis le soir, éventuellement, des patients Covid à risque. Vous êtes en mesure de voir des malades sans prendre des risques pour ceux qui ne sont pour l'instant pas contaminés?
Oui, absolument. Je crois que tout le monde s'est organisé. Moi, je travaille tout seul, mais bon, j'ai organisé les choses en espaçant considérablement les rendez-vous, les personnes qui veulent quand même venir et qui peuvent venir, j'ai espacé de façon à ce que personne ne se croise dans la salle d'attente. Je n'ai jamais plus d'une personne en salle d'attente. Ouais. Voilà, ça me paraît important. Bien entendu, on désinfecte tout systématiquement. Enfin, tout le monde s'est organisé. Les cabinets de groupe qui ont la chance d'avoir la possibilité de faire deux salles d'attente l'ont fait, deux cabinets de consultation distincts l'ont fait. Mmh. La répartition dans la journée, matin, après-midi, comme vous le disiez, ça a été fait dans plein d'endroits. Donc les patients peuvent venir et à part les protections qui pour nous sont encore insuffisantes, même si ça s'améliore, allez, soyons positifs, il y a un peu d'amélioration, peuvent venir. Après, il y a d'autres coins qui se sont organisés avec des centres de consultation dédiés.
On va en parler juste après.
C'est aussi une possibilité.
D'accord. On va en parler juste après. Merci docteur Bensoussan, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission santé revient. Le docteur Bensoussan, vous l'avez compris, reste avec nous avec un appel notamment à tous les patients chroniques dans les cabinets médicaux. Ils sont toujours ouverts et attention à vous, votre suivi médical doit se poursuivre avec une organisation adaptée. Vos généralistes sur le terrain se sont adaptés, ils viennent nous l'expliquer. On va vous détailler tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et lui aussi, il est toujours en ligne avec nous, c'est le docteur Jean-Louis Bensoussan. Je rappelle que vous êtes généraliste, vous êtes aussi le secrétaire général du syndicat MG France. Docteur Bensoussan, vous le disiez tout à l'heure, vos cabinets sont désertés par les patients. Alors certes, avec le confinement, pas mal de petites maladies virales ont dû s'arrêter de circuler. Quand même, ça, on l'imagine bien. Mais par contre, il y a d'autres maladies, elles, qui persistent. Vous inquiétez de ne plus voir dans vos cabinets quel type de patients en particulier ?
Bah écoutez, nous soignons beaucoup de pathologies chroniques, nous soignons des hypertendus, des gens plus ou moins jeunes. Et par exemple, ce matin, j'ai un patient qui me téléphone en me disant j'ai un peu de fièvre, et puis en le questionnant un petit peu plus, il me dit que depuis 2-3 jours, il a une douleur dans la poitrine et une douleur du bras gauche. Donc je l'ai envoyé en urgence et j'attends les résultats, mais il faisait peut-être quelque chose au niveau de ses coronaires. Voilà, un autre patient a fait une colite néphrétique. Enfin, je veux dire, les pathologies continuent et les pathologies, et donc les personnes doivent nous appeler parce que ne doivent pas penser que tout repose aujourd'hui sur le coronavirus.
Et oui, parce qu'il y a certains patients, je pense aux diabétiques, aux hypertendus, qui ont peut-être encore toujours besoin de consultations de visu avec vous. Donc eux, il faut absolument qu'ils vous contactent, qu'ils contactent leur médecin traitant, on est d'accord, hein, parce que leur suivi doit se poursuivre. Hein.
Absolument. Pour les patients que nous connaissons, nous pouvons les voir en téléconsultation. On peut faire des suivis d'un diabétique qui va bien, qui n'a pas de complications, etc. Et puis, au cours de la téléconsultation, si on discerne ou si on dépiste quelque chose de différent, on va le faire venir en consultation clinique. C'est aussi ça sert aussi à ça. Donc ces patients-là, il faut qu'ils continuent à venir nous voir et à nous téléphoner.
Jimmy.
Que pensez-vous de la vaccination des enfants ? De nombreux médecins généralistes et pédiatres s'inquiètent du fait que les parents n'amènent plus leurs enfants pour la vaccination. Est-ce que vous conseillez de respecter le calendrier vaccinal ou peut-être qu'on peut différer d'un mois certaines choses, au risque peut-être, si on fait tout ça, de revoir certaines maladies revenir, comme la coqueluche, la rubéole ou autre ? Quel est votre point de vue ?
Mon point de vue, c'est qu'il faut continuer à faire ce type de vaccination. Si les enfants vont bien, il faut les vacciner. Il faut faire attention à ces retards, à ces décalages qui peuvent ensuite déclencher des oublis complets. Et donc après, on se retrouve avec des trous dans le calendrier vaccinal. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui contre-indique de venir avec son enfant pour faire les vaccinations. Alors certaines peuvent être décalées de quelques mois, notamment les rappels, mais en tout cas, la première phase de la vaccination doit respecter le calendrier, c'est important. Et aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut le faire, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins là aussi, beaucoup moins de parents qui nous appellent.
C'est vrai que ce n'est pas une urgence, mais c'est très important, et notamment quand on a des bébés, les papas et les mamans qui ont des bébés, qui ont des vaccins prévus tous les mois, souvent au début, ça, il faut vraiment les faire. Hein. Ce n'est pas urgent, mais c'est important.
Il faut les faire dans le cadre du calendrier
médecin,
prévu.
Ouais.
On appelle son médecin et on prend le rendez-vous et c'est organisé. Et encore une fois, c'est organisé pour que les gens ne croisent pas, bien sûr, des patients susceptibles d'avoir le coronavirus.
Alors, ce qui manque aussi, je crois que vous l'avez dit dans un communiqué MG France cette semaine, ce serait un numéro unique comme le 15, un petit peu, pour centraliser les appels pour les soins de ville. Je sais que c'est quelque chose qui est à l'étude, qui devait arriver. Et là, vous dites que c'est urgent, on en a besoin plus que jamais, c'est ça ?
Bah écoutez, c'est un combat pour nous, en tout cas MG France, de plusieurs années. Il y a plusieurs années que nous disons clairement, et à tous les ministres qui se sont succédés, qu'à côté du 15, il faut un numéro dédié pour les urgences, on va dire, non vitales, ce que nous appelons, nous, les soins non programmés, tout au long de la journée. Voilà, les différents ministres nous ont dit « c'est une idée intéressante », mais ne l'ont pas mis en place. Et aujourd'hui, on se rend compte, vraiment, à l'occasion de cette crise, qu'on a besoin de ce deuxième numéro pour ne pas engorger le 15. Il m'est arrivé d'attendre 35 minutes, là, pour avoir le 15. Ça n'est pas possible. On ne peut pas engorger le 15 dans des périodes comme celle-là. Donc oui, nous relançons l'idée qu'il faut un numéro dédié à ce que nous appelons les soins non programmés.
Bon, ça fait des années que vous l'attendez. Je ne crois pas que ça sera fait en période de crise, mais en tout cas, on entend bien le besoin, Jimmy.
Est-ce que ça vient bien aussi du fait qu'initialement, le gouvernement avait annoncé, et à juste titre, qu'il ne fallait surtout pas se rendre dans les cabinets de médecins généralistes, qu'il ne fallait pas aller aux urgences et qu'il fallait appeler le 15 si on pensait avoir le coronavirus. Donc tout le monde fait ça. Désormais, on dit qu'il ne faut appeler le 15 que si jamais on a des signes de détresse respiratoire et ne pas aller chez son médecin traitant. Et donc finalement, on se rend compte que les patients, ils respectent les consignes. Ils ne vont plus dans les cabinets de médecins généralistes et ils appellent le 15 comme on leur a dit. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi peut-être pour les patients de s'adapter à toutes ces mesures, toutes ces choses qui changent, puisque au gré de l'épidémie, on a de nouvelles données. Et c'est vrai que ça passe très vite. Ce qu'on dit hier n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Et puis dans deux jours, ce sera peut-être carrément obsolète. Donc c'est peut-être difficile aussi pour les patients de suivre le rythme.
Oui, tout à fait. J'abonde complètement dans votre sens, mais je crois qu'on peut profiter, une fois cette crise passée, de se poser et de voir comment justement améliorer le circuit et améliorer l'accès aux soins des patients entre l'urgence vitale et ce qu'il n'y a pas. Vous savez, dans mon département, la Haute-Garonne, on a un numéro. C'est pas le 116-117, c'est le 39-66. Et on se rend compte que, en tout cas, dans les périodes où le 3966 est ouvert, les patients ne se trompent pas. Et il y a à peine moins de 1%, je crois que c'est 0,5% des appels qui vont au 3966 alors qu'ils devraient aller directement au 15 parce que c'est une urgence. Donc, vous voyez, les patients savent quand c'est une urgence vitale qui nécessite le 15 et quand c'est du soin, j'allais dire, normal, classique, qu'un médecin généraliste peut traiter.
Merci beaucoup docteur Bensoussan d'avoir été avec nous, on vous souhaite bon courage pour la suite et donc le message est passé, vous généralistes, vos cabinets sont ouverts, les médecins sont là, des médecins de premier recours, ils sont prêts à vous prendre en charge patient, donc surtout n'hésitez pas, ils sont là aussi pour les autres pathologies. Merci.
15h, 16h sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, un peu de douceur, un peu d'amour pour bien terminer cette émission. Ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc. Mais avant ça, un petit break musical avec un duo, Alex Goffer et Billie Holiday. Ça s'appelle The Child.
Damn that sky shall get. Damn that's not shall lose.
C'était Alex Goffer et Billie Holiday sur Europe 1, ça s'appelle The Child.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux, bonjour Mélanie.
Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Jade. Je vais vous la lire. Après 2 semaines de confinement, j'ai la tentation de rappeler mon ex. Je me retiens, mais je sens que je vais craquer dans les prochains jours. J'aimerais avoir votre avis, car j'ai peur de faire une erreur. Que dois-je faire? Alors Catherine, qu'est-ce qui peut pousser Jade comme ça à vouloir reprendre contact avec son ex comme ça maintenant?
Je crois que c'est... Alors là, il se trouve que c'est l'histoire avec l'ex, mais c'est au-delà des ex. C'est quand nous sommes comme ça dans une situation qui pose la question, alors bien sûr, pas de la vie et de la mort pour tous, mais de la fin d'un temps ou d'un futur qui ne ressemble pas à ce que l'on a pu connaître, peut-être que c'est un moment où on fait plus volontiers le bilan de ce qui a été important pour soi, des gens qui ont été importants pour soi, et donc l'ex peut en faire partie. Le besoin de parce qu'on a plus de temps, parce que souvent nous pensons à notre vie d'avant sans pour autant avoir le loisir de contacter les gens auxquels nous pensons, avec peut-être aussi une certaine culpabilité quand il s'agit des ex, de téléphoner à ses ex dans un temps habituel, pensant que justement ça pourrait faire la preuve d'une insécurité ou d'un doute quant à ce qu'on a laissé derrière soi, alors que là c'est un temps de mise au point avec soi et sa vie. Donc assez légitimement, nous repensons à notre vie, à l'hier, puisqu'on ne sait pas ce que sera demain, et donc les ex en font partie le cas échéant.
Alors, vous avez des explications qu'on comprend bien, mais c'est pas juste aussi parce qu'elle se sent seule finalement à cause du confinement. Elle précise pas si elle est confinée toute seule, mais ça a l'air. Elle manque peut-être tout simplement de présence et d'amour. Et puis tiens, il lui vient à l'esprit son ex, non? Je sais pas.
Bien sûr, c'est très juste. Bien sûr que si dans sa situation, c'est être seule, effectivement, on se compte peut-être sur les doigts de la main les gens qui sont importants pour elle, et le besoin de tendresse, qui est un besoin absolument indispensable, le besoin de compter pour quelqu'un est un besoin indispensable de l'être humain. Il ne suffit pas de compter pour nous-mêmes. On a besoin de se voir et de se sentir exister dans le désir et dans le regard des autres. Donc l'ex, c'est par définition celui auquel on peut penser en tout premier lieu.
Jimmy Mohamed ?
Contacter son ex, c'est peut-être mieux que contacter son amant ou sa maîtresse. Mais est-ce que on peut se dire que contacter son ex, ça peut être pas une si mauvaise chose, parce que désormais, comme on consomme un peu des relations au gré des sites de rencontres, et puis on peut se lasser un peu pour rien de quelqu'un, peut-être que renouer avec un ex avec qui on aurait rompu les liens trop facilement, c'est pas une si mauvaise idée en fait.
Je trouve que c'est une jolie idée en tout cas, puisque là nous parlons d'un ex, mais je vois aussi des familles qui reprennent des liens, qui renouent des liens alors que les relations se sont un petit peu abîmées à l'occasion de choses souvent très anecdotiques. Et bien comme vous le dites très justement, Jimmy, je pense que plutôt que de chercher toujours dans la nouveauté, reconsidérer les relations que l'on a un peu maltraitées ou que l'on a rapidement soldées, c'est peut-être une façon assez intelligente de réfléchir nos liens aux autres, de ne pas succomber qu'à la consommation pour la consommation, mais vraiment à l'entretien des relations et à la créativité et à la construction permanente dans ces relations.
Et ce retour là vers le passé, parce que donc Jade se retourne, pense à son ex, c'est un côté un peu nostalgique. Est-ce que la nostalgie, c'est un refuge finalement? Ça permet pas peut-être aussi de souffler un peu par rapport à toute cette actualité un peu anxiogène?
Oui, en sens, mais ceci étant, la nostalgie, il y a quelque chose d'un peu déprimé. On compte ce que l'on a perdu dans la nostalgie, et on se sent exister par la souffrance, cette douce souffrance que représente l'état nostalgique. Donc, il y a quelque chose un peu comme quand, à certains moments, on se replonge dans les albums photos et on regarde ce qui était avec des sourires,
beaucoup de gens qui postent
rires.
Des photos d'eux en ce moment sur Facebook. J'ai vu ça, des photos d'eux enfance, comme un défi en ce moment. Qui circule beaucoup, ça fait partie de ça, cette nostalgie aussi.
Absolument, on regarde ce qu'on a vécu, ce qui nous paraissait, ce à quoi on tournait le dos parce que ça nous paraissait ridicule, et puis tout d'un coup tout cela prend de la valeur quand demain tout pourrait s'arrêter. Alors il y a une idée un peu de fin du monde dans cette idée là et donc de fait recompter toutes les billes qu'il y a dans ses poches et qui ont fait des moments de joie et de partage de jeu avec les autres, bien sûr.
Jimmy ?
Il y a ceux qui veulent recontacter leur ex, et puis c'est Benjamin Lévesque qui nous soufflait ça. Les sites de rencontres en ligne ont baissé de plus de 50%. Donc en fait, on a des gens qui veulent renouer avec peut-être l'amour, et puis d'autres qui s'en éloignent. Comment expliquer cette différence de cap entre les deux ?
Parce que ça, on ne sait pas où on va, donc il y a une idée complètement inconnue. Donc cette idée de consommation que nous avons longuement pratiquée, tout d'un coup s'arrête. On ne sait pas. Un monsieur me disait ce matin, je ne sais pas quel va être mon monde de demain, mais il faut absolument qu'il change. Il va changer. Quels seront mes repères? Donc de fait, on n'est pas tellement dans la conquête du lendemain, ce qui doit faire d'ailleurs frémir tous les métiers de commerce, parce que il va falloir aller répondre à un désir dont on ne sait pas encore ce qu'il sera pour le consommateur de demain, qui va de fait s'éloigner de ce que nous avons été. Et donc effectivement, pour l'heure en tout cas, après les, vous savez, on retrouve vite nos repères et on revient vite sur nos habitudes. Malheureusement, on oublie même ce que nous avons appris, ce que nous avons enduré, on l'oublie malheureusement rapidement, mais pour l'heure on n'est pas dans une oui. conquête vers l'avenir, et donc on est plutôt vers voir ce qu'il y a dans comme provision dans nos placards pour savoir ce dont nous allons pouvoir nous réjouir.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, précieux comme toujours. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on recommence, hein, donc envoyez-nous vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversés intégralement à l'Institut Pasteur. À présent, je cède la place au grand Mathieu Noël et son équipe Les Sauvages. Bonjour Mathieu.